100% d'Europe, Juliette Garbrand.
Bonjour et bienvenue dans Accent d'Europe. Aujourd'hui, au Karabakh. Depuis sa reconquête totale du territoire en septembre 2023, l'Azerbaïdjan y réalise de grands travaux. Objectif, repeupler au plus vite cette ancienne enclave arménienne, disputée depuis les années 1990 par Bakou et Erevan. Il est rare de pouvoir accéder au Karabakh. Notre envoyé spécial a pu s'y rendre, mais dans des conditions particulières, encadré par des officiels qui ne donnent pas leur nom à l'antenne. Elle y a constaté le retour des premières familles azerbaïdjanaises, un retour largement mis en scène par le régime d'Ilham Aliyev. Reportage Manon Chaplin.
On vient d'arriver à Fouzouli, dans le Haut-Karabakh. On est accompagné d'un chauffeur, d'une traductrice et d'un représentant de l'État, c'est obligatoire. Les autorités azerbaïdjanaises nous ont expliqué que c'était pour des raisons de sécurité, car la région est encore jonchée de mines antipersonnelles. On sait que c'est aussi une manière de nous encadrer, de surveiller où l'on va et à qui l'on parle. Fouzouli, donc, c'est une ville qui a été récupérée par l'Azerbaïdjan au terme de la Seconde Guerre du Karabakh en novembre 2020. Elle est encore très marquée par la guerre. Il y a partout des maisons en ruine, des mausolées. Et au milieu de tout ça, la nouvelle ville de Fouzouli, avec des dizaines d'immeubles flambant neufs. Près de 3100 personnes originaires de la région ont déjà été réinstallées. On commence notre visite par une école. Elle a ouvert ici en septembre dernier. C'est gigantesque.
Il y a deux étages, 40 classes pour des élèves de 6 à 16 ans. Ici, vous pouvez voir les laboratoires de physique, de chimie. Il n'y a personne en ce moment. Les élèves sont en vacances.
Les élèves sont donc en vacances, mais c'est assez étonnant parce que tout a été disposé sur les tables comme s'ils étaient là, comme s'ils étaient présents. Des cahiers, des pipettes, des microscopes. On dirait presque une école témoin. Dans chaque classe, il y a une professeure qui nous attend avec un grand sourire.
Ma motivation ici est totalement différente. Vous ne vous rendez pas compte à quel point je suis heureuse. Être professeure ici, ce n'est pas seulement enseigner, c'est avoir le privilège de reconstruire le futur de notre région.
Venez, regardez, ici nous avons également une deuxième école pour les enfants, une école d'art et de dessin. Là, c'est un militaire et un colonel qui ont été tués juste avant que la guerre ne commence, en juillet 2020. Et lui, c'est un général qui a eu un immense rôle pour libérer nos territoires.
Toutes les œuvres d'art qui sont exposées ici ont plus ou moins un rapport avec la guerre ou la patrie. On se balade à présent dans le centre-ville, il y a plein de petits commerces, ils viennent à peine d'ouvrir. Ça sent encore la peinture, un coiffeur, une esthéticienne, un dentiste, une salle de sport. Les rues sont très calmes, on ne croise pas beaucoup d'habitants.
Ça a été compliqué d'attirer les investissements ici, car les investisseurs se disent qu'ils ne vont pas pouvoir faire beaucoup de profits. Ils ont tout de même fini par venir parce qu'ils comprennent l'opportunité que cela représente de construire une vie nouvelle ici avec les habitants. C'est aussi grâce aux incitations de l'État, les avantages fiscaux notamment.
Il y a deux femmes qui nous attendaient en bas d'un immeuble. Elles se dirigent vers nous. Tout est vraiment très millimétré.
Je m'appelle Ehsan Aliyeva. J'ai été arrachée à la ville de Fouzouli par la guerre en 1993. J'avais 8 ans. Je suis ce qu'on appelle une déplacée interne. J'ai dû aller vivre dans une autre ville d'Azerbaïdjan. 30 ans plus tard, je suis enfin de retour. La maison de mon père était près d'ici. Je suis si triste qu'il ne soit plus de ce monde pour pouvoir voir ça. Que Dieu bénisse le président, qui lui accorde à jamais une bonne santé. Que Dieu bénisse tous nos dirigeants, nos martyrs, nos vétérans. C'est grâce à eux que nous sommes de retour ici aujourd'hui.
Aujourd'hui, il n'y a plus d'Arméniens dans le Karabakh. Les derniers sont partis suite au dernier assaut militaire en septembre 2023. Est-ce que vous pensez qu'un jour, il sera possible à nouveau de vivre ensemble ici?
Je ne suis pas sûre. Ce serait trop difficile après tout ce que nous avons traversé. Nous avons vécu l'enfer. Nous avons toujours cherché à faire la paix, mais ça n'a pas été le cas des Arméniens. Combien de guerres avons-nous dû vivre à cause d'eux? Combien des nôtres sont morts? Combien ont été tués?
Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a bien des Arméniens dans le Karabakh. Ils vivent aujourd'hui à Khankendi. Ils vivent entre eux, ils sont en sécurité, personne ne les touche, ils ne touchent personne. Nous vivons ensemble en harmonie.
S'il y a encore des Arméniens à Khankendi, est-ce que c'est possible d'aller les rencontrer?
Je ne sais pas. Elle peut aller là-bas?
Je ne sais pas, ça ne fait pas partie du programme. Mais si vous voulez, je peux demander.
Khankendi, c'est le nom azerbaïdjanais de Stepanakert, l'ancienne capitale de l'enclave séparatiste arménienne du Karabakh. La ville se trouve seulement à 1h15 de voiture de Fouzouli et malgré nos multiples demandes, l'accès nous y a été refusé. Des experts américains affirment d'après des images satellites que les traces arméniennes sont dans la zone, peu à peu effacées.
Il y a eu d'ailleurs à nouveau la nuit dernière en Géorgie où la mobilisation s'est poursuivie en faveur de l'Union européenne et contre le rapprochement avec la Russie. La question de l'influence grandissante des partis pro-russes est aussi manifeste en Roumanie. Après l'arrivée en tête d'un candidat pro-russe au premier tour de la présidentielle le 24 novembre et après une nouvelle surprise lors des législatives du week-end qui ont été marquées par une poussée sans précédent des partis d'extrême droite. La Roumanie est un pilier de l'OTAN, de l'Union européenne et du soutien à l'Ukraine et ses résultats inquiètent en particulier dans la jeunesse. Mihaela Ionela Furculiț est doctorante en politique publique dans l'ouest du pays. Elle s'est investie dans l'accueil des réfugiés au début de la guerre à l'université de Cluj, où nous l'avions rencontrée. Elle travaille aujourd'hui comme consultante. Pour elle, ces élections ont été une totale surprise.
Oui, absolument. Je suis citoyenne roumaine et citoyenne moldave et pour moi, le résultat des élections a été un choc. J'avais déjà eu peur au moment des élections en Moldavie, peur que les forces russes s'impliquent et qu'on ne puisse pas sauver le pays. Mais quand on a vu les résultats ici, on a eu très peur parce que la Roumanie est un exemple pour la région. Et c'est le pays qui porte la voix de l'Ukraine, de la Moldavie au Parlement européen. Donc si la Roumanie, qui est si importante, se retrouve entre les mains de pro-russes, alors la Moldavie comme l'Ukraine, risque d'être en danger. Au premier tour de la présidentielle, on a eu Călin Georgescu, qui est admirateur de la Russie et de la politique de Vladimir Poutine, qui dit que l'État roumain aide trop les réfugiés ukrainiens. Et maintenant, on a des partis extrémistes qui font plus de 30% au Parlement si on les additionne, ce qui est beaucoup. Ils ont acquis une grande popularité. Pour nous, les jeunes, c'est une sérieuse inquiétude pour la démocratie et pour notre avenir et celui de la région. Mais en même temps, c'est ce que les gens ont choisi, c'est leur vote. Il faut l'accepter et comprendre pourquoi ça arrive.
Et justement, vous vous êtes engagée à l'université pour aider les jeunes réfugiés au moment de l'invasion de l'Ukraine. Vous avez constaté depuis une usure de la population?
Je dirais que les gens se sont habitués à l'idée qu'ils ont une guerre à leur porte et leur cause n'est plus aussi populaire. L'autre chose, c'est que malheureusement, certains veulent instrumentaliser les réfugiés ukrainiens et disent parfois que l'État roumain les aide trop, qu'on leur donne trop d'argent, ce qui n'est pas vrai car le soutien a diminué. Il ne reste que quelques programmes d'aide, aide financière ou à l'emploi. Mais les réfugiés sont plus en mesure de faire face à présent pour subvenir à leurs besoins. Et les jeunes sont de plus en plus actifs. Ils viennent de lancer une association de jeunes ukrainiens à l'université. C'est super pour moi de voir qu'ils se sont vraiment intégrés et veulent être actifs. Et même quand il y a eu des manifestations récemment après le premier tour de la présidentielle, les jeunes Ukrainiens sont sortis pour dire qu'ils faisaient partie de cette société et qu'ils soutenaient la jeunesse roumaine.
Les partis favorables au rapprochement avec la Russie vont certes être très présents au Parlement roumain, mais ils ne seront pas en mesure de gouverner.
On ne va pas avoir aujourd'hui un gouvernement qui se tourne vers la Russie ou veut arrêter de soutenir l'Ukraine. Mais en même temps, quand on a autant d'extrémistes au Parlement qui déclarent que cette guerre n'est pas la nôtre, qu'on ne doit pas s'impliquer, qu'on sera plus fort si on se tient en retrait et que la Russie est un bon exemple, quand on a un tel narratif qui commence à se faire entendre, il y a de quoi être inquiet que ça puisse affecter l'Europe et l'Ukraine à plus long terme.
Mihaela Ionela Furculiț, doctorante en politique publique à l'université de Cluj en Roumanie. En France, l'expérimentation du service national universel ne devrait pas se poursuivre l'an prochain. Il était censé renforcer la cohésion et la mixité sociale. Trop d'argent et pas assez de résultats. En revanche, le succès du service civique ne se dément pas. Depuis 2010, il a touché près d'un demi-million de jeunes de 16 à 25 ans. Et en Autriche, ce service civique existe aussi. Il fête cette année son 50e anniversaire. Au départ, il ne concernait que quelques centaines d'objecteurs de conscience à qui on avait décidé de proposer une alternative au service militaire. Aujourd'hui, il est considéré comme une école de la solidarité et un véritable pilier de la société. Mais peut-être pas aussi solide qu'on le pense. Reportage à Vienne, Céline Béal.
Une conférence de presse de la secrétaire d'État à la jeunesse en octobre dernier. Claudia Placholm appelle les jeunes Autrichiens à faire un service civique. Ils sont déjà près de la moitié des conscrits à le préférer au service militaire.
Parce que nous avons autant besoin de jeunes conscrits pour une armée forte que nous avons besoin du service civique. En 50 ans d'existence, le service civique est devenu irremplaçable pour notre système social.
L'Autriche est un pays neutre, entouré géographiquement de membres de l'OTAN. Et le public, comme les politiques, semble, malgré le retour de la guerre en Europe, peu inquiet des questions de défense et du service militaire en particulier. En revanche, le très populaire service civique est au centre des préoccupations au moment de son 50e anniversaire. Pour comprendre, direction l'Arbeiter Samariter Bund, l'un des principaux organismes de secours en Autriche. Matthias Zilahi, 18 ans, y travaille comme ambulancier en service civique.
Notre rôle quand on rentre est de garer puis de ravitailler l'ambulance. On regarde si on a encore assez de bandages, de gants en plastique, de désinfectants. Et on fait le plein d'essence pour être prêt à repartir.
Matthias conduit des ambulances et assiste les secouristes lors des premiers secours. Cette expérience lui plaît bien.
Quand j'aurai fini mon service civique, je compte continuer à m'engager ici, en tant que bénévole.
Environ un tiers des 15 000 jeunes en service civique chaque année continuent par la suite en tant que bénévole, une ressource vitale pour le système social autrichien. Ils travaillent dans les ambulances, mais aussi dans les centres pour personnes âgées ou handicapées, et les crèches par exemple. Explication avec le directeur de l'agence du service civique, Ferdinand Mayer.
Le rôle du service civique est d'améliorer la qualité de vie des personnes dans ces structures. Par exemple, le jeune va jouer aux cartes avec les habitants d'une maison de retraite ou aller leur faire des courses, des tâches que les employés de la maison de retraite n'ont pas le temps d'effectuer.
Les jeunes n'ont pas le droit de travailler sans supervision, mais ils sont très importants dans certains secteurs.
La branche la plus importante dans le service civique est celle des secours. 40% des jeunes y sont affectés. Je ne veux pas penser à ce qui advient s'il n'y avait plus de service civique pour aider au transport de malades.
Alors que l'Autriche manque de plus en plus d'infirmiers ou de puéricultrices, le service civique permet de combler les lacunes. Mais il y a la question démographique. Reinhard Hunsmüller dirige l'organisme de secours Arbeiter Samariter Bund Österreich, qui emploie quelques 1500 conscrits.
Notre société occidentale vieillit, nous faisons trop peu d'enfants, et le nombre de conscrits recule rapidement. En même temps, le nombre de personnes atteignant un âge très élevé augmente avec les progrès de la médecine. Cela signifie qu'il y a un besoin accru en transport médicalisé vers les hôpitaux, les maisons de retraite, chez les médecins, etc.
Actuellement, 12% des postes de service civique ne sont pas pourvus. Pour Reinhard Hunsmüller, il est temps de remettre le système à plat, service civique et militaire. D'autant qu'une autre évolution l'inquiète.
La guerre se rapproche. Ici, à Vienne, l'Ukraine est plus proche de nous que certaines régions reculées de notre propre pays. Nous ne pouvons pas faire comme si nous vivions dans un havre de paix. Il va falloir que quelque chose change. Mais à l'heure actuelle, je ne sais pas quelle forme cela prendra.
Malgré tout, il reste difficile pour les Autrichiens de remettre en question leur service civique. Car alors que les conscrits touchent seulement un dédommagement de 800 euros en moyenne, moins que le seuil de pauvreté local, leur travail fait économiser 700 millions d'euros par an à leur patrie.
Et c'est l'heure de retrouver Vincent Teval et son choix musical. Bonjour Vincent.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Avec aujourd'hui l'Autrichienne Sopenskin qui revient avec un répertoire un peu différent.
Et oui, depuis ses débuts, voilà une grosse quinzaine d'années sous le nom de Sopenskin. La chanteuse autrichienne Anya Plaschk a régulièrement glissé des reprises parmi ses recueils de compositions originales, 3 albums et quelques maxi aux couleurs toujours très sombres. Et c'est aujourd'hui un disque entier de reprises que publie Sopenskin, avec un goût et un talent toujours aussi impressionnants pour des arrangements denses et audacieux. La musicienne s'attaque à des chansons de nature et d'origine très variées, puisqu'on retrouve sur ce très beau torso des reprises de Tom Waits, Sufjan Stevens, Les Doors, Cat Power, un tube des années 80, Voyage Voyage de Desireless, et un autre des années 90, What's Up du groupe américain Four Non Blondes, succès international de l'année 1993, ici revisité façon maison hantée.
30 years of my life and still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that a world was made of this brotherhood of men, for whatever that means. And so I cry sometimes when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I'm feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I said, hey, yeah, 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 yeah.
Sur le très bel album de reprise de l'Autrichienne Sopenskin, c'était la chronique musicale de Vincent Teval. À la réalisation, Théo Raison. Retrouvez le podcast d'Accent d'Europe et toute l'actu européenne sur l'appli RFI Pure Radio. Et rendez-vous demain, même heure, même fréquence.